La langue reflète la société et sa façon de penser le monde, précisait le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2015, encourageant chacun et chacune à adopter l'écriture inclusive. L'éditeur Attier s'est jeté à l'eau en publiant un manuel scolaire en écriture inclusive vendredi. Le ministre de l'Éducation nationale s'est à nouveau montré, disons, réservé sur cet usage. Bonjour Eliane Vénot, vous êtes professeur émérite de littérature de la Renaissance à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors on va commencer par des définitions. Qu'est-ce que l'écriture inclusive ?
Alors l'écriture inclusive, c'est le versant écrit du langage inclusif qui consiste à parler, utiliser les termes féminins et les termes masculins à peu près à égalité quand on, dans les énoncés où on veut parler des deux sexes, bien entendu.
Alors moi, j'ai trouvé trois règles. Vous allez me dire si celles-ci s'appliquent. Tout d'abord, petit 1, dans l'écriture inclusive, il faut accorder en genre le nom, les noms de fonction.
Alors dans le langage inclusif en général, c'est-à-dire oral et écrit, il faut utiliser les noms féminins pour parler des femmes et les noms masculins.
Donnez-nous des exemples.
Eh bien, par exemple, il faut utiliser le nom sénatrice pour parler des sénatrices. Il faut utiliser ambassadrice. Il faut utiliser écrivaine. Et vous le disiez, autrice.
Et pas auteure.
Non, auteure est un plus ou moins un néologisme qui a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, mais qui en fait a été utilisé par les Québécoises parce qu'elles en avaient assez qu'on parle d'elles au masculin, donc elles ont trouvé que c'était plus simple. Et comme elles n'ont pas vu dans les dictionnaires français le mot autrice où il aurait dû être, puisqu'il s'est employé pendant des siècles, elles ont pensé qu'il n'avait jamais existé.
Du tout un néologisme, autrice.
Ah, c'est pas du tout un néologisme, il vient du latin, comme actrice. Ça a fait auteur-acteur en masculin, actrice-autrice au féminin. Et on a utilisé ce mot tranquillement jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à ce qu'il soit condamné régulièrement et qu'il ne soit pas mis dans les dictionnaires. Donc on a l'impression qu'il n'a jamais existé.
Alors ensuite, plus compliqué, deuxième règle, utiliser la double flexion, l'épicène et le point milieu. Là, je crois que vous allez devoir nous expliquer de quoi il s'agit, Eliane Vénot.
Alors il s'agit donc, après la première règle qui consiste à utiliser des noms féminins pour les femmes, il s'agit dans les énoncés, encore une fois, où on parle des deux sexes, d'utiliser autant les noms d'hommes que les noms de femmes. Et ensuite, il se pose, alors donc, dire les Français et les Françaises, les écrivains et les écrivaines, les étudiants et les étudiantes, etc.
Mais l'épicène et le point flexion, qu'est-ce que c'est ?
Alors ensuite, on a un problème avec l'écriture, c'est-à-dire, est-ce que quand on écrit ça, tout simplement on dit la même chose qu'à l'oral, c'est-à-dire qu'on dit les deux mots, ou bien est-ce qu'on trouve des abréviations qui permettent, en écrivant un seul mot, de signifier les deux ? Et donc, ça fait 10-15 ans à peu près qu'on réfléchit sur quelles abréviations sont les meilleures. Est-ce que c'est le point milieu, le point bas, la parenthèse, le trait d'union, le majuscule, etc. Et donc, ce débat avance petit à petit. Moi, de mon point de vue, il n'est pas tout à fait au bout de la réflexion, mais ce débat avance petit à petit. Il semble aujourd'hui qu'il y ait un consensus autour du point milieu, parce que c'est le plus discret.
C'est un point, tout simplement.
C'est un point qui existe dans d'autres langues, hein, mais simplement, il n'a jamais été utilisé en français, donc il est sans connotation, si vous voulez, alors que les parenthèses, par exemple, signifient ce qu'on met entre parenthèses est moins important que le reste, le trait d'union, ça veut dire qu'il faut absolument une union, etc. Donc le point milieu semble aujourd'hui la meilleure solution, mais il reste des débats parmi les gens qui sont favorables à ces abréviations, il reste des débats entre y en faut-il un ou y en faut-il deux quand il y a le pluriel.
Alors par exemple, on va écrire les agriculteurs tirettrice.
Alors
avec
moi, non, il y a pas forcément accord là-dessus non plus. Un certain nombre, enfin, dans les gens qui sont favorables à ce type d'écriture, ce type d'abréviation, il y a des gens qui sont favorables à ne les utiliser que dans le cas des noms qui n'ont que un e de différence, comme étudiant, étudiante, mais qui pensent qu'il ne faut pas l'utiliser lorsque les terminaisons des mots sont trop différentes, comme agriculteur et agricultrice.
Mais alors le point mignon, on voit ce que c'est l'épicène, Eliane Vénot.
Alors épicène, c'est un mot, comment dirais-je, scientifique, si vous voulez, qui veut dire sans marque de genre, comme le mot architecte ou le mot fonctionnaire, si vous voulez.
Par exemple, lorsqu'on parle d'une femme architecte, qu'est-ce qu'on dit ?
Eh bien, on dit, en français, il faut dire homme architecte ou femme architecte, puisque le mot ne marque pas le genre. Voilà, on a un certain nombre de mots comme ça dans la langue française qui ne marquent pas le genre. Ministre, c'est pareil. Et en général, c'est le contexte linguistique, c'est-à-dire les accords, les adjectifs, le déterminant, etc., l'article, qui disent si on se parle d'un homme ou d'une femme.
Mais alors, d'après l'écriture inclusive, quand un mot ne marque pas le genre comme architecte, il faudrait le marquer ou pas ?
Non, bien sûr que non. On dit, il faut simplement dire, quand on parle des architectes, il faut dire les architectes des deux sexes, si on veut parler des architectes des deux sexes, ou bien des femmes architectes ou des hommes architectes, si on veut parler des uns ou des autres. Mais on ne touche pas ce mot.
Et puis enfin, troisième règle, la fin de la majuscule de prestige pour homme.
Alors, la majuscule de prestige pour homme est un enfumage, n'existe pas. Quand on voit Robespierre, comment il parle des droits de l'homme, il met pas de majuscule. En revanche, dans le langage inclusif, là, c'est le troisième pilier, si on peut dire, du langage inclusif, c'est d'arrêter de parler des hommes, d'utiliser le mot homme quand on veut parler des êtres humains.
Alors, on entend beaucoup de critiques hein, contre l'écriture inclusive. On entend dire que c'est entre 1984 et les précieuses ridicules. Est-ce que vous pensez vraiment que ce type de sophistication est nécessaire à l'égalité entre hommes et femmes, Eliane Viennot?
Alors, c'est pas du tout le fait d'exprimer, de parler des femmes autant que des hommes quand on veut parler des deux sexes. C'est pas du tout une sophistication. C'est aujourd'hui une nécessité. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec les protocoles qui sont proposés à l'écrit, mais c'est rien de. Enfin, je veux dire, personne ne proteste parce que monsieur, ça s'écrit avec un M puis un point, et personne ne dit mais comment va-t-on dire ça à l'oral? Tout le monde sait qu'on dit monsieur. Bon, alors donc là, c'est pareil quand on voit intellectuel avec un point au milieu, on dit les intellectuels des deux sexes. Quand on voit un point au milieu de étudiantes, on dit les étudiants et les étudiantes. Voilà. Mais on n'est pas obligé. Personne ne nous oblige à utiliser ça.
Pour vous, c'est une question d'habitude, Eliane
Viennot? Oui, c'est une question tout à fait d'habitude. Il va falloir s'y mettre, je pense, parce que les énoncés neutres produisent, ben, vous avez entendu sur les Nobel, hein, la pensée neutre, soi-disant neutre, produit que ben, il y a pratiquement jamais de femme Nobel.
L'Académie contre la langue française, c'est l'un des livres que vous avez publié, Eliane Viennot, et vous en avez un autre. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, où il est question donc de l'écriture inclusive. Notamment, merci d'avoir été avec nous ce matin, 7h24 sur France Culture.